Personne n'éduque personne, personne ne s'éduque seul. Les êtres humains s'éduquent ensemble par l'intermédiaire du monde.
Éduquer, ce n'est pas remplir un vase, c'est allumer un feu.
Vers l'éducation nouvelle.
Je vais faire un pop-pop, un bateau à vapeur. Ouais, un bateau à vapeur, ce qui serait plus... Moins pop-pop que... Boum-boum. Ouais, je vais voir comment ça se passe.
Pop-pop.
Truc en chambre à air, mais je sais pas quoi.
Une combi de plongée.
Ah bah oui.
Un body.
Il y a les machines à coudre en plus. Doublé moumoute.
Une catapulte.
Une pelleteuse.
Peut-être qu'on essaie déjà pour...
Après voilà, plus on met de poids, plus on met de poids.
Une largeur de...
Alors,
tu les mets là et en fait tu le fous par-dessus.
Le bateau démontable à vapeur.
Il est facile, je crois. Ouais.
Allez, un petit peu encore. Regarde, on est presque là.
Moi, je suis en train de bricoler un bateau et on le finira demain.
Tu peux nous dire en deux mots ce que tu as fait ?
En fait, on a fait une promenade dans la forêt pour découvrir l'environnement. On a visité la mer aussi et c'était trop beau.
Et le chien, il s'est pris une tellement grosse vague qu'il s'est fait emporter au loin et il est revenu. Mais sauf qu'il était tout trempé et il a éclaboussé quelqu'un quand il s'est secoué pour s'essuyer.
Moi, j'ai lu des histoires et j'ai fabriqué un renard à partir de carton et d'une canette.
On a lu des albums, 2-3, plus pour certains. On pouvait partir sur des personnages à confectionner nous-mêmes. Donc, il y en a qui ont fait du tissu, du collage, de la peinture. Demain, on va se lancer dans raconter des histoires à partir de ce qu'on a produit aujourd'hui.
J'ai fait une marionnette qui s'appelle Gaston à réaction. C'est un chien avion.
Demain, on utilisera ces personnages et on les fera se rencontrer. Une maman qui est grande, qui est très grande, plus grande que tout le monde, qui est très forte, plus forte que tout le monde, que les autres mamans et que tous les papas aussi. Elle est très très belle aussi, elle est très intelligente. Elle fait du patin, elle joue au baby-foot, elle joue à la pétanque, elle adore faire des puzzles. Pour l'enfant, elle aimerait bien avoir un papa aussi comme les autres enfants. Je cherche un papa du coup qui serait un peu comme ma maman quoi, un papa qui serait super fort, super beau, avec des cheveux intelligents, qui aime faire des puzzles. Il y a plein de papas qui viennent postuler. Mais du coup, il n'y en a aucun qui est, ils sont pas assez forts, pas assez de cheveux, nul en calcul, qui aime pas les puzzles, ça ne marche pas. Et en fait, il en reste plus qu'un, il n'aime pas spécialement faire les puzzles, ou il n'est pas vraiment sportif non plus, il n'est pas grand. Mais il est gentil et il va emménager et il va lire des histoires, même parfois deux histoires le soir. Il fait la cuisine et j'aime mon nouveau papa, même s'il ne fait pas de pâte à roulettes, même s'il ne sait pas faire de puzzles, c'est mon papa.
Salut, vous écoutez bien Vers l'éducation nouvelle sur GTFM 91.2. Aujourd'hui, l'émission va s'appuyer sur le regroupement interrégional des CMEA, qui traitait de différents sujets, mais notamment des discriminations et des rapports de domination. Et notamment, pourquoi on s'appuie sur ces regroupements-là, c'est parce qu'il y a une émission de radio qui a été créée spécialement pour... ce regroupement, et du coup il y a plein de sons qui ont été enregistrés et réalisés pendant tout ça. Du coup j'ai dit beaucoup de fois le mot regroupement depuis tout à l'heure, peut-être vous dire un peu ce que c'est. Alors là en fait vous avez écouté depuis 3 minutes des sons d'ambiance, plutôt sur les temps d'activité de ce regroupement là. Il y avait aussi des temps d'échange. Je sais pas, JB, si tu veux essayer de nous dire un peu, toi, en deux, trois mots, là, c'est quoi un regroupement des CMEA?
Ouais, eh ben, t'en as déjà pas mal dit, puisque t'as dit un regroupement, du coup, des personnes ensemble, des temps d'activité, des temps d'échange. Un regroupement, c'est jamais qu'une manière de se retrouver ensemble pour se former, pour échanger, pour continuer à apprendre, à avancer un peu dans notre vie associative, quoi. Et du coup, là, c'est un regroupement en particulier d'un des secteurs des CMEA, plutôt le champ autour de l'animation. Mais voilà, le but, il était bien de continuer à se former, de continuer à se rencontrer et de continuer à pratiquer de l'activité. Un peu cette formule-là de stage, ce parti pris, ce pari de dire si on est ensemble pendant 3-4 jours, il peut y avoir des choses en termes d'énergie, en termes de pratique d'activité qui font qu'on avance ensemble plus loin, quoi.
Ok. Et du coup, si je ne me trompe pas, ça a eu lieu à la fin décembre en Vendée.
Et c'est
oui,
ça.
On allait conquérir les terres vendéennes. Et il n'y avait pas que les CMEA, il y avait aussi les Éclés.
Il y avait les Éclés de France, ouais.
Ouais.
Alors au départ, même, ça devait être un regroupement national des CMEA. Et du coup, il y avait aussi des éclaireurs et éclaireuses de France, un peu de différents endroits là, de la nation. Enfin, du coup, voilà. Alors les éclaireurs et éclaireuses de France, ce n'est pas trop un hasard. Alors déjà, parce que depuis très longtemps, on est liés. Mais en plus, parce qu'on se retrouve là, ces derniers temps, à travailler plusieurs champs ensemble. Enfin, plusieurs, on a des problématiques un peu communes, là, comme on le verra un peu dans l'émission. Mais notamment, cette année, on a eu deux champs de travail assez importants. Un truc autour des questions là, du nouveau service militaire, là, le service national universel. Et autour de, un peu de la non-fermeture de nos associations, enfin l'ouverture qu'on met au travail. Quoi, et du coup, un peu autour de la question de la transidentité.
Ok. Le service national universel, vous pouvez réécouter l'émission du mois de décembre qui était notamment autour de ces questions-là. Et puis transidentité, on va en causer du coup sur cette émission. Du coup, ce regroupement qui durait 3-4 jours et donc qui traitait de différents sujets. Donc il y avait de la pratique d'activité, vous avez pu entendre le son en intro de cette émission-là. Et là, on a choisi de faire ressortir deux grands sujets qui ont été travaillés pendant le regroupement. Un premier qui est autour, justement, donc de identité, transidentité, identité diverse. Et du coup, pour ça, il y a différentes démarches de réflexion, de discussion qui ont eu lieu. Et là, sur cette première partie d'émission, on vous propose d'écouter une démarche autour des prénoms. Et qu'est-ce que ça dit de notre identité, ou qu'est-ce que ça a comme impact sur notre identité. Et à ça, il y aura une interview d'une copine trans qui parle de cette question-là, qui viendra un peu donner une autre lecture et d'autres éléments. Voilà, et ben c'est parti, on va d'abord écouter un petit morceau de musique et puis on vous laisse là-dessus.
Vous êtes Radio 100, Radio 100, non, Radio 100, Radio 100, non.
Je m'appelle Alphonse, c'est pas de ma faute. C'est mes parents qui m'ont fait le coup. Ça aurait pu tomber sur un autre. On était 9 garçons chez nous. Je sais que ça fait plusieurs prénoms, mais que ça fait plusieurs baptêmes. On peut manquer d'inspiration, mais il y a des limites quand même. Je sais pas à quoi ils ont
et
pensé.
Léonard.
Ils devaient être pompés ou quelque chose.
Je devais pas être Samuel,
Aurélie,
Pierre,
Gaël.
Jules.
Je m'appelle Adèle et je ne suis pas tout à fait sûre de pourquoi, mais je pense
Joséphine.
Adèle, ma mère est née au Maroc et du coup c'est aussi un prénom arabe, bien que moi du coup c'est un prénom pour une meuf et que je pense que dans les pays arabes c'est plutôt un prénom de mec.
Léo.
Et je pense que c'est
Ilona.
Peut-être il y a une connexion là, mais je ne suis pas sûre.
Ablai.
Voilà.
Morgane.
Alors moi c'est Margot, mes parents je crois qu'ils ont juste trouvé le prénom chouette,
Laure.
Mais l'anecdote c'est qu'en fait j'ai pas de T ou de AUX, moi c'est juste Margot O.
Damien.
Et
François.
Du coup ça fait toujours un peu le petit Guillaume. Effet genre,
Théo.
Ah oui Margot avec un
O.
Et quand j'étais pas encore née, ma grand-mère elle l'avait tellement mauvaise que ça s'écrivait juste
là-bas.
Avec un O, qu'elle avait fait plein de petits vêtements brodés où elle avait marqué Margot O T sur tous mes vêtements.
Thomas.
Moi, c'est François. Je crois que pour mes parents, ça a été très très dur de choisir un prénom. Ils n'étaient pas forcément d'accord. Ils voulaient au départ m'appeler Justin. Et puis ils se sont dit, ah mince, il y a Justin Bridou. Merci. Peut-être que ça ne va pas l'aider. Voilà, on va peut-être plutôt l'appeler François. Si j'étais né avec une vulve, je me serais appelé Mathilde.
Voilà. Je m'appelle Pierre. Je porte ce prénom parce que je crois que si j'avais été une fille, ils n'avaient pas prévu de prénom.
Ben, je m'appelle Asmalik. Et pourquoi je m'appelle Asmalik? Parce que mon père voulait appeler comment dire, son grand frère pour son fils. Et du coup, je m'appelle Asmalik. Et il y a aussi un grand marabout qui défendait l'islam chez nous qui s'appelle Asmalik. Je crois que ça, c'est important. Et l'islam aussi, il y a un nom de Dieu qui s'appelle Malik. Et Malik, c'est le roi. Et moi, j'aime bien d'être le roi.
Florane. En 2013, 20% des Diane et des Adèle ont obtenu une mention très bien au bac. Ce n'est le cas que de 4% des Enzo et des Anissa, 16% des Clara, 4,5% des Jérémy.
Ces différences entre prénoms ne sont pas dues au prénom. Les copies sont corrigées anonymement et le prénom n'a rien de magique.
Alors, moi, c'est Solène.
Justine.
Du coup, je m'appelle comme Michel. Ça parce que, en Rose. Fait, mes parents, pendant des mois, ils n'ont jamais réussi à se mettre d'accord Solène. Sur un prénom.
J'y
vais. Et c'était Rémi. Le seul prénom Rémi. Où personne n'avait de veto en fait. Dessus. Dany. Donc, voilà.
Alors, bonjour, moi, c'est Céline. Et je m'appelle Céline, je pense, parce que c'était à la mode dans les années 80. Romain. Et en fait, il y avait la chanson d'Hugo Frey, Romain. Dis-moi André. Céline. Louis. Et ma maman, elle aimait Florence. Beaucoup. Et donc, voilà, je m'appelle Céline.
Pierre.
Salut, moi, c'est Gaëlle. L'origine de mon prénom, je ne la connais pas trop. Je crois que c'est parce que c'est un prénom qui plaît énormément à ma maman et qu'elle a toujours rêvé d'avoir une fille qui s'appellerait Gaëlle. Et comme du coup, je suis arrivée au monde, elle a dit, tiens, ce sera Gaëlle.
Alors, je m'appelle Yacine parce que mon papa, il voulait me donner un prénom algérien comme j'allais grandir en France.
Alors, je m'appelle Raphaël, ça veut dire un truc en hébreu, mais je ne vais pas spoiler l'autre Raphaël. Et du coup, mes parents m'ont appelé comme ça.
Florane.
Parce qu'ils aimaient bien ce prénom, ma mère, je crois. Voilà, et je suis. Avant, je m'en fichais par rapport à la signification, et maintenant, j'aime bien. Depuis que j'ai découvert une nouvelle signification à ce que ça veut dire, j'aime bien.
Alors, moi, je m'appelle Jean-Baptiste, parce que ma famille, ils sont super catholiques, et du coup, Jean-Baptiste, ils aimaient bien. Et comme ils sont encore plus catholiques, dans mes autres noms, je m'appelle Jean-Baptiste, j'ai un autre prénom, c'est François. Voilà. Et un dernier prénom, c'est Marie, pour être sous la protection de la Vierge Marie.
Moi, je m'appelle Enora, mais mes parents ne savaient pas trop comment m'appeler et ils ont vu ma tête, ils ont dit que ça collait bien, Enora. Voilà.
Le prénom indique l'origine sociale de celles et ceux qui le portent. Parmi les élèves entrés en 6e en 1995, 71,7% des enfants d'enseignants ont finalement décroché en 2010 un bac général, 68,2% des enfants de cadre supérieur, 20,1% des enfants d'ouvriers qualifiés, 13% des enfants d'ouvriers non qualifiés et 9,2% des enfants d'inactifs.
Coucou, je m'appelle Romane et ce que je sais, c'est que quand je suis née, ma grand-mère très catholique a dit à ma mère « Et pourquoi pas gothique ?»
Donc moi, c'est Zoé et j'ai pas choisi mes parents, c'est mon prénom, c'est mes parents qui me l'ont donné et je sais pas vraiment pourquoi.
Je m'appelle Florence, c'est moi qui ai choisi mon prénom. Il est assez proche de mon prénom assigné à ma naissance, mais correspond mieux à mon identité de genre. Je l'ai choisi en fonction d'un aspect pratique. Ce prénom me permet de garder le même diminutif que tout le monde utilisait. Ça leur permettrait de ne pas trop changer leurs habitudes.
Bonjour, je m'appelle Damien.
Zoé.
Et je m'appelle Damien parce que Damien, c'est le saint des médecins et que ma mère est infirmière, donc je pense qu'il y a du lien.
Alors moi, c'est Clémentine et je m'appelle Clémentine parce que je suis née en décembre et que c'est la saison des Clémentines.
Les prénoms Ulysse, Guillemette, Kitri, Madeleine, Anne-Claire, Eya, Sybille, Marguerite, Anna, Irène, Octave, Domitil sont entre un quart et un tiers à obtenir une mention.
Moi, je m'appelle Raphaël, parce que ça veut dire quelque chose en hébreu. Il faudra venir me demander quoi.
Je m'appelle Guillaume, mais je crois que ça veut dire tête casquée en germanique, Wilhelm, et ça faisait marrer mes parents. Voilà.
Je m'appelle Delphine. Mes parents ont choisi de m'appeler Delphine parce qu'il y avait une grande chanteuse au nom de Delphine.
Et ils auraient aimé que je chante également. Et malheureusement, non.
Donc moi, je m'appelle Emeric parce que mes parents me trouvaient que c'était un nom qui me correspondait bien. C'est-à-dire le chef de la maison en germanique. Ils trouvaient que ça me correspondait bien et ils avaient envie d'avoir un nom un peu original. Du coup, là, pour qu'ils m'ont appelé comme ça.
Moi, je m'appelle Joséphine parce que mes parents, ils aiment bien la chanson de Alain Bachung. Vous êtes Joséphine.
À l'opposé, moins de 2% des Asma, Sephora, Hakim, Kimberley, Asia, Cynthia, Brenda, Christian, Bilal, Brian, Melvin, Johan, Eddie et Rudy Justine. Ont obtenu une mention très bien.
Si vous le savez comment je m'appelle, vous me le direz, vous me le direz. Si vous le savez comment je m'appelle, vous me le direz, je les oubliez. Vous me le direz, je les oubliez. Quand j'étais petite et que j'étais belle, on m'enrubanait de ces noms jolis. On m'appelait fleur, sucre ou bien dentelle. J'étais le soleil et j'étais la pluie. Quand je fus plus grande, hélas à l'école, j'étais la couleur de mon tablier. On m'appelait garce, on m'appelait folle. J'étais quelques notes dans un cahier. Si vous le savez comment je m'appelle, vous me le direz, vous me le direz. Si vous le savez comment je m'appelle, vous me le direz, je les oubliais. Vous me le direz, je les oubliais. Quand je pris 15 ans, que s'ouvrit le monde, je crus qu'on allait enfin me nommer. Mais j'étais la moche et j'étais la ronde, j'étais la pleurniche et la mal lunée. Quand alors j'aimais, quand je fus sourire, quand je fus en vol, quand je fus lila, j'appris que j'étais ventre et même pire, que j'étais personne, que j'étais pas. Si vous le savez comment je m'appelle, vous me le direz, vous me le direz. Si vous le savez comment je m'appelle, vous me le direz, je les oubliais. Vous me le direz, je les oubliais. Je fus berceau et puis biberonne. J'oubliais tout ça quand je fus rosier. Puis me réveillais un matin torchonne. J'étais marmitas et Pierre Dévier. J'étais ravaudière et j'étais routine. On m'appelait soupe, on m'appelait pas. J'étais paillasson, carreau de cuisine. Et j'étais l'entrave à mes propres pas. Si vous le savez comment je m'appelle, vous me le direz, vous me le direz. Si vous le savez comment je m'appelle, vous me le direz, je les oubliais. Vous me le direz, je les oubliais. Puis un jour, du fond de ma tombe, j'entendis des voix qui se rappelaient. Plaisir et douleur, souvenirs en trombe. J'étais vivante et on m'appelait. Peu importe alors l'état de la cage, le temps qu'il faudra pour s'en évader, je saurai quoi mettre en haut dans la marge pour recommencer mon nouveau cahier. Je sais maintenant comment je m'appelle, je vous le dirai, je vous le dirai. Je sais maintenant comment je m'appelle. C'est pas demain que je l'oublierai. Et c'est pas demain que je l'oublierai. Et c'est pas demain que je l'oublierai.
Aujourd'hui, je suis avec Célia pour parler des questions de transidentité. Et du coup, Célia qui est militante de l'éducation populaire. Bonjour Célia.
Bonjour Clémentine.
Alors on a un petit rituel dans cette émission, carrément je me la pète maintenant, ça s'appelle émission. C'est de se situer sur le plan social puisqu'on est sur un regroupement qui parle de questions de domination et de discrimination.
Une femme blanche, trans du coup, on y reviendra je crois.
C'est prévu.
Voilà. De famille plutôt classe populaire, agricole on va dire. Voilà, qu'est-ce que j'ai oublié d'autre, sûrement plein.
Ben merci. Alors ça, c'était le point qu'on appelle le point quiche, parce que quiche suit.
Ah si, 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 sur le plan militant, féministe, intersectionnel ou inclusive, les gens emploient différents mots. Alors, en tout cas, j'inclus dans les luttes féministes les femmes de manière large, puis au niveau militant aussi, éducation populaire et militante de défense des classes pop.
Et ben, avant de perdre tout le monde, je te propose qu'on commence par un petit point définition. Mm-hmm. Et ça veut dire quoi être cis et ça veut dire quoi être trans?
Alors, je vais commencer par c'est quoi être une personne trans. Il se trouve que dans la manière dont est organisée notre société, dès la naissance, on va assigner à chaque personne son genre social. En gros, on va décider si c'est un homme ou une femme. Il n'y a pas d'entre-deux.
Oui, c'est ce qu'on vit tous les jours. Oui. C'est même, on le vit régulièrement dans nos entourages, presque la première question qu'on va poser lorsqu'on apprend qu'un proche ou une proche a eu un enfant, c'est « Ah, c'est une fille ou c'est un garçon ?»
Oui. Voire même ça se fait avant même la naissance, des fois. Et pour faire ça, la société est organisée qu'on va considérer le genre de la personne en fonction principalement des organes génitaux externes du nourrisson. Voilà. Bon, en gros, s'il y a une verge, un scrotum, des testicules, ce sera un garçon. S'il y a une vulve, un vagin, des lèvres, ce sera une fille. Voilà. En gros, c'est comme ça que ça va. Qu'est-ce que je disais ? Oui, donc voilà comment on décide du genre des personnes dans l'organisation de la société. Il se trouve que le souci, c'est qu'il n'y a a priori aucun lien entre le genre social, le fait qu'on soit un homme ou une femme, et la physiologie sexuée. Ce qui fait que certaines personnes se retrouvent assignées à un genre qui ne correspond pas à ce que ces personnes sont. Un enfant naît avec un pénis, on va décider que c'est un garçon, sauf que cette personne va, au bout d'un certain temps plus ou moins long, se rendre compte qu'en fait ça ne marche pas, et qu'en fait non, elle est bien une femme, ou autre chose d'ailleurs, parce que c'est plus large que ça, mais bon, on est coincé dans la binarité sociale. Il y a eu erreur. Donc voilà, une personne trans, on peut dire ça comme ça, c'est une personne sur qui il y a eu erreur quand on lui a assigné son genre social.
Une personne trans, c'est une personne qui a été assignée à la naissance fille ou garçon, puisqu'on n'assigne pas d'autres catégories, et qui ne se reconnaît pas, qui n'est pas cette assignation-là qui lui a été fournie. Ça peut être une personne qui a été assignée fille alors qu'en fait elle est garçon, une personne qui a été assignée fille alors qu'elle est d'autres choses, peut-être on reviendra dessus, mais gender fluide, non-binaire, etc., ou l'inverse, ou encore d'autres choses, mais qui n'est pas le genre qu'on lui a assigné de naissance. Et du coup, une personne cis, qu'est-ce que c'est ? Voilà. Et pourquoi ça a du sens de nommer une personne cis ?
Alors déjà, j'aime bien dire ça, c'est qu'une personne cis, c'est une personne non trans. J'aime bien, des fois ça inverse les rapports. Une personne cis, justement, c'est en miroir, c'est une personne coup de chance, on va dire. Son assignation de naissance correspond à ce qu'elle est réellement. Alors pourquoi c'est important de nommer ces choses-là ? Pour revenir un peu, dire personne cis, c'est que ça, alors déjà c'est comme plein de termes dans les discriminations, ça permet, parce que souvent être cis c'est considéré comme une norme. Ça évite de dire il y a les personnes normales et puis il y a les personnes trans. Donc voilà, ça permet de ne pas faire un truc de il y a la norme et il y a la déviance, c'est il y a deux états de fait. Différents types de personnes. Et puis ça permet aussi de reprendre de l'emprise aussi sur ces questions-là de c'est quoi être trans, c'est quoi être cis, parce que quand on parle de personnes, enfin souvent dans la vie de tous les jours, on va parler des personnes trans par rapport, comme je disais, aux gens. Voilà. Genre il y a les gens normaux et puis les autres. Et du coup d'avoir ce mot-là, ça permet de reprendre de l'emprise en disant non, je ne suis pas une sous-catégorie de la société, j'ai une caractéristique qui est différente d'autres, voilà, et du coup je nomme aussi la catégorie d'en face pour la remettre sur un pied d'égalité.
C'est quelque chose dont on va se rendre compte dans l'ensemble des mécaniques de domination, c'est-à-dire que la norme, on ne la nomme pas. Ça veut dire quoi concrètement dans ton quotidien de vivre en tant que femme trans ?
Dans l'absolu, pas grand-chose. Dans l'absolu, c'est une caractéristique que j'ai parmi d'autres, parmi...
Le fait que t'es un pull violet, par
parmi
exemple.
Parmi le fait, voilà, d'être un peu scientiste sur les bords, parmi le fait que je suis aussi blanche, que je suis aussi... Après, ça vient jouer des choses dans le sens où être trans, c'est pas quelque chose de reconnu par la société. C'est-à-dire que ça va être, dans mon quotidien, toujours des galères d'être reconnu pour ce que je suis. Notamment tout ce qui va être administration, en fait, rien n'est calibré pour les personnes trans. Donc c'est une lutte à chaque démarche pour faire comprendre aux gens. Il faut réexpliquer tout le temps la situation. Les gens, au mieux, ne comprennent pas tout de suite. Et au pire, sont hostiles, parce que ça leur paraît être quelque chose... comment dire ? C'est-à-dire que c'est pas, pour des gens, c'est pas un bout de ma vie, c'est un genre de caprice ou de délire de ma part de vouloir être considéré comme une femme alors que c'est pas comme ça qu'on m'a assigné à la naissance. D'avoir l'impression de lutter contre le reste du monde pour être reconnu comme ce qu'on est, quoi. Et c'est souvent c'est une accumulation de petites humiliations, parce que voir l'incompréhension ou l'hostilité à chaque fois qu'on doit s'expliquer de qui on est, c'est quelque chose de pesant.
Et ben du coup, pour essayer de contribuer à notre modeste mesure à l'évolution de la société, est-ce que tu pourrais nous donner comme ça les petits conseils que tu donnerais aux personnes cis ?
Ce que j'ai dans ma culotte ne vous regarde pas. Non, alors, parce que souvent, quand les gens comprennent qu'on est une personne trans, souvent le premier truc qui vient dans leur tête, c'est l'image de « Ah, tu vas faire plein de chirurgie. Est-ce que tu as fait la chirurgie ?» Et en gros, quand les gens disent « la chirurgie », ils ne parlent pas de rhinoplastie pour le nez ou de refaire les pommettes. Il parle en gros, est-ce que tu t'es fait transformer les organes génitaux ? Parce que souvent, dans la tête de la plupart des gens, c'est l'aboutissement, c'est ça que chaque personne trans chercherait, c'est la modification de ses organes génitaux. Mais on y revient, parce que c'est ce que je disais sur comment on assigne les gens à la naissance, c'est que c'est tellement centré sur les organes génitaux externes que... le seul moyen de changer de genre pour plein de gens, ce serait de changer de sexe. Ce qui n'est pas du tout le cas de plein de personnes trans, en fait. Il y a des femmes trans qui vivent très bien avec leur pénis, des mecs trans qui vivent très bien avec leur vagin. Il y en a pour qui c'est complexe, pour qui il y a besoin de faire ces changements, mais c'est bien... comment ?
Oui, ça viendrait à l'idée de personne dans aucun autre cas... de commencer à entamer une conversation avec une personne qu'on connaît à peine en parlant d'organes génitaux. Est-ce que tu verrais d'autres conseils à donner aux personnes cis ?
Oui, j'en ai plein.
Peut-être qu'il y a quelque chose de l'ordre de comment on pronomme les personnes.
Si vous avez un doute sur le genre d'une personne, pour X raisons, parce qu'elle ne vous renvoie pas les codes que vous attendez, tout ça... prenez soin d'attendre. En fait, si vous ne savez pas, avant de genrer la personne, avant d'en parler en il, en elle, quoi que ce soit, écoutez comment d'autres en parlent déjà. Écoutez aussi comment la personne parle d'elle. Il y a l'avantage d'avoir les adjectifs en français, du coup, on peut vite capter. Si la personne utilise le féminin tout le temps, ou le masculin tout le temps, ou alterne entre les deux, normalement, vous avez une idée de comment il faut la nommer. Et si jamais vous ne savez vraiment pas, vous n'arrivez pas à savoir, il vaut mieux lui poser la question, quitte à ce que ce soit... Ça peut être un peu chiant pour elle, parce que des fois, elle se lève le matin, elle a la sensation que tout va bien, tout le monde, elle est superbe, on la reconnaît pour ce qu'elle est, machin, ça va être une super journée. Du coup, juste poser la question, des fois, ça annule un peu le truc, genre, ah merde, bon, en fait, ça passe pas comme je veux. Mais vaut mieux ça, vaut mieux ce petit truc que d'aller mégenrer la personne...
Ça veut dire quoi, mégenrer ?
Mégenrer, c'est quand on utilise les mauvais pronoms et les mauvais accords pour une personne.
Donc par exemple, je vais appeler elle ou genrer au féminin par mes adjectifs un homme ou ces choses-là.
Ouais.
Bon, alors, parce qu'on sait que malheureusement, comme on est formaté, ça va continuer à arriver. qu'est-ce qu'on fait quand on mégenre une personne par erreur?
On s'excuse et on passe à autre chose. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Enfin, parce qu'il y a aussi des gens qui vont passer 20 minutes à se flageller après m'avoir mégenré, tout ça. Bon, c'est un peu fatigant de gérer la culpabilité de l'autre, quoi. Enfin, c'est pas beaucoup plus aidant.
Okay.
Du coup, un simple désolé ou un simple excuse-moi. Se rattraper dans la phrase.
Il y a des moments où t'as trop la niaque, tu te dis vas-y, je vais rentrer dedans, ou vas-y, je vais faire de la pédagogie. Puis il y a des moments où tu te dis non, mais c'est bon, là, j'ai juste pas la force, quoi. Donc, c'est un peu ça que j'entends dans ce que tu dis.
Oui, c'est ça.
Je venais de dire faire de la pédagogie, et du coup, j'avais envie de te poser la question. T'es militante trans et t'es militante de l'éducation populaire. Ça veut dire quoi pour toi, chacun de ces trucs-là, et quel lien tu fais entre les deux ?
Militante trans parce que je me bats pour que toutes les personnes trans puissent exister déjà, être reconnues pour ce qu'elles sont, et dans leur diversité, parce qu'en fait, personne trans, c'est une multiplicité de parcours, de manières de vivre cet aspect de leur personne. Enfin voilà, moi je veux qu'on puisse visibiliser aussi l'existence des personnes trans et leur permettre déjà d'exister en sécurité, sans être mis à mal par l'organisation de la société, quoi. Donc, bon, c'est large, hein, ça va de aller prendre la tête aux mairies quand les papiers sont mal faits, aller faire des rappels à la loi, aux administrations, parce qu'il y a des lois qui existent, mais les gens ne les connaissent pas. Ça va aussi à faire des actes symboliques, de montrer qu'on existe, en fait, que ce soit des marches, des manifestations, des day-in, je ne sais pas si...
Tu peux nous expliquer un peu ce que c'est ?
Bah, c'est un acte symbolique, en gros, où on se rassemble quelque part dans un lieu public, généralement, ou en tout cas un espace symbolique où on vient revendiquer quelque chose. Et on se met, tout le monde se couche par terre pour représenter aussi les victimes des discriminations et de l'oppression.
Parce que dying, du coup, on peut se dire que ça vient de l'anglais die et du coup que c'est la mort.
Oui, c'est ça.
Et que peut-être c'est aussi l'occasion de rappeler, alors j'ai pas les chiffres en tête, peut-être tu les auras, sinon Internet est votre ami, mais que comme dans l'immense majorité des discriminations et des dominations, les personnes trans meurent plus que les autres, sont plus assassinés que les autres, meurent de manque de soins plus que les autres, etc. Et donc, je pense que le dying a aussi cette symbolique-là on meurt plus.
Oui, que ce soit d'agression, que ce soit de suicide. Mais c'est un truc qui est utilisé, les dying aussi. Il me semble, historiquement, c'est
J'aurais dit act-up aussi.
Il l'utilisait pour faire bouger les choses, voilà. Éducation populaire. Là, je peux faire des grandes phrases. Parce que je pense qu'on a plein de choses à s'apprendre les uns, les unes des autres, sans forcément passer par une instance descendante qui saurait, qui explique aux autres. On peut s'éduquer ensemble, en fait. C'est ça que je défends. Et notamment sur la question des enfants, parce que c'est plutôt ça que j'ai pratiqué, mais... J'ai pas forcément envie d'avoir d'enfants, mais je considère que ceux qui sont là, on peut déjà essayer de s'en occuper bien et de faire en sorte que ça puisse c'est déjà des personnes, mais devenir des adultes qui ont une puissance d'agir, qui sont capables de savoir ce qu'ils ou elles veulent, de discriminer ce qui est bon ou mauvais pour elles, pour eux, enfin voilà, et d'apprendre à faire collectif. Enfin, pour moi, c'est ça que l'éducation populaire permet aussi, c'est apprendre le collectif, qu'on peut s'organiser ensemble, qu'on n'a pas besoin d'aller chercher une instance supérieure, que si on a besoin de quelque chose, ben, en fait, en branchant tous nos cerveaux, on va y arriver. Voilà. Je pense que les deux ensemble, moi, je les mets ensemble parce que le simple fait de l'existence des personnes trans vient re-questionner cette question de la binarité homme-femme. Elle vient la remettre en cause parce que le simple fait d'exister en dehors de ces lignes-là montre bien que ces lignes-là ne sont pas des absolus. Bah, du coup, avoir conscience qu'il y a une diversité possible sur cette question-là de genre, etc., c'est aussi s'ouvrir à ce que les enfants aient d'autres possibilités que ce choix binaire. Et ça apprend à se méfier aussi des mécaniques qu'on peut avoir qui enferment.
Ça me fait penser à une phrase du livre, du vieux livre de littérature jeunesse, Julie qui avait nombre de garçons, qui dit « on est rangé comme des cornichons, les cornifilles dans un bocal et les cornigarçons dans un autre, et les garfilles, on ne sait pas où les mettre ».
Oui, mais c'est un peu ça, oui. C'est comme s'il y avait, tu sais, les jeux en bois, là, où il faut mettre les cubes
dans les carrés, dans les ronds. Et...
Ben, c'est comme si on avait une boîte avec un trou en carré, un trou en rond, mais sauf que de temps en temps, on chope des triangles, tu vois. Du coup, c'est compliqué de les mettre dans l'un ou dans l'autre.
Et du coup, moi, ce que je trouve intéressant, en plus, dans ce que tu dis, c'est que... quelque part de penser ces questions-là, de penser la place aussi des enfants trans dans nos accueils collectifs de mineurs, et ben finalement c'est plus de liberté pour chaque enfant présent dans nos accueils collectifs de mineurs, puisque c'est réfléchir à toute l'organisation de l'activité, toute l'organisation de la vie quotidienne pour permettre à chaque enfant de se construire dans l'identité de genre qu'il, elle, y elle désire dans l'ensemble de ces espaces de vie, quoi.
J'ai envie que les enfants que je croise, les jeunes que je croise, ils puissent trouver leur identité, affirmer qui ils sont, sans vivre ce que moi ou d'autres on a pu vivre, que bah, moi j'ai passé quasi 20 ans de ma vie à ne pas comprendre ce qui m'arrive, non pas à cacher, ça c'était encore après. J'ai passé presque 20 ans de ma vie à ne pas comprendre qui je suis, parce que les seules choses qu'on m'en renvoyait, je rentrais pas dedans. Et du coup, il a fallu longtemps pour que je découvre qu'en fait, il existait d'autres possibles et que peut-être c'est là-dedans que j'existais, en fait. Et je le souhaite pas à personne de vivre ça. Du coup, si on peut... Voilà. Enfin, je trouve l'éducation populaire, elle donne des outils, elle donne des moyens pour permettre justement que les personnes qu'on croise, eh ben, elles puissent faire cette distinction, trouver qui elles sont et faire leur choix. Enfin, voilà, qu'elles aient un infini de possibles devant elles et qu'elles puissent trouver ce qui leur va. Et pas être restreint dans des choix.
Je vais me permettre, tu me feras les gros yeux si c'est une bêtise, mais de donner un autre conseil qui est en lien à l'ensemble des personnes et qui marche pour l'ensemble des dominations. C'est que, désolé pour les libristes, mais Google est ton ami. Et que parfois, la personne en face de toi peut être fatiguée de répondre aux questions que tu te poses, même si ces questions sont légitimes, et qu'il y a plein de personnes hyper chouettes, alors personnes trans hyper chouettes, mais ça marche de partout, qui ont écrit des trucs formidables, qui ont fait des vidéos formidables pour expliquer, pour amener des éléments de compréhension, et que du coup, bah, ça peut permettre de se renseigner.
Oui. Si je peux me permettre, et vous, Google est ton ami, mais il existe plein d'autres moteurs de recherche.
Voilà, je savais que les libristes allaient me taper dessus. Encore une fois, comme un rituel, on commence par le point quiche et on finit par le mot de la fin.
Quand on subit une oppression, quelle qu'elle soit, sur un bout de sa vie, parce qu'on n'est pas blanche, parce qu'on n'est pas cis, parce qu'on n'est pas machin, eh ben, je trouve qu'il faut rendre ça visible. Alors, on n'a pas toujours l'énergie, mais justement, le collectif, c'est ça, c'est que ça permet de créer de l'énergie à plusieurs quand on n'en a pas seul. S'organiser à plusieurs, se rendre visible, déjà montrer qu'on existe.
Donc voilà, après cette interview de Célia, qui était précédée par une petite démarche autour de la question des prénoms et de l'impact sur... Et qu'est-ce que ça, et sur nos identités, qu'est-ce que ça disait de notre identité. Peut-être repréciser un peu la manière dont avait été réfléchi ce regroupement et un peu les aspects qui ont été travaillés. Je sais pas, JB, si tu veux nous en dire un peu plus là-dessus.
Le regroupement ou peut-être l'émission de radio, parce que alors il y a ce truc-là un peu qu'on essaye toujours de faire, c'est de partir de nos pratiques et de qu'est-ce qui nous traverse. Et du coup, c'est là où là il y a Célia qui parle un peu de choses que dans notre mouvement qui nous traverse aujourd'hui et qu'on est en train d'essayer de travailler, quoi. Et du coup, pour partir de ça, par exemple sur l'émission radio, on commençait chaque émission par une présentation des personnes. Et du coup, les personnes se présentent en disant un peu leurs privilèges, d'où est-ce qu'ils parlent. Voilà, du coup, par exemple, moi, je me présentais JB, de classe moyenne, du coup, un mec cisgenre. Du coup, pour resituer un peu tout ce qui faisait que j'ai une place particulière dans la société et du coup, je vais avoir plus de pouvoir que d'autres. Voilà, et de resituer un peu ces privilèges et de prendre ça en compte. Voilà, c'est un peu le prolongement de ce qu'on disait tout à l'heure, quand on disait le nommer, c'est pas anodin, mais du coup, voilà, c'est aussi ce que disait le reportage, de dire... c'est pas n'importe qui nomme telle personne, et la personne, elle n'a pas une mention au bac parce qu'elle a ce nom-là, mais bien parce qu'elle vient de cette classe sociale-là qui lui a donné ce nom, quoi.
Et du coup, dans une logique de visibiliser, enfin, si je comprends bien, de visibiliser de quelle place on parle, et de fait, c'est pas anodin, parce que ça a un impact sur la manière dont on parle, et aussi la manière dont ça va être reçu, notre parole.
Ouais, exactement, parce qu'en plus, c'est ça qui fait la norme. La norme, c'est toujours l'invisible. Enfin, du coup, si la norme, c'est le mec, du coup, on va parler, on va dire des « il » partout dans le langage, parce que c'est la norme. Et du coup, ce truc-là de visibiliser, bah, ça permet de le poser sur la table et du coup, de le prendre en compte. Voilà.
Et du coup, il y avait trois aspects, notamment, que vous souhaitiez visibiliser là, dans cette émission de radio que vous avez réalisée pendant le regroupement des CMA. C'était la question du sexisme, enfin, du coup, de son sexe d'origine, son sexe et de son identité sexuelle et du coup l'impact que ça avait par rapport au sexisme.
Ouais, il y avait la question du dit d'une manière du droit aux vacances, dit d'une autre manière du classisme, quoi, de voir qui peut partir en vacances aujourd'hui, quel type de vacances, tout ça, voilà, de droit aux vacances, quoi.
Donc la question de la classe sociale, voilà, ouais, comme autre aspect discriminant. Et le troisième aspect, du coup, c'était le racisme.
Ouais, et puis le racisme en prenant un peu son histoire, quoi, en se disant bah, d'où est-ce que ça vient, du coup, et du coup de parler un peu du colonialisme.
Ouais. Ok. Et du coup, là, on vous propose d'écouter un reportage qui a été réalisé toujours pendant le regroupement autour de cette question du racisme, et notamment d'une exposition, qui sera suivie ensuite d'une démarche que vous êtes fait vivre, un peu de ressenti retour sur une après-midi de discussion, réflexion autour de ces différents sujets-là, à partir d'albums, jeunesse, enfance, voilà. Donc bah, on vous laisse là-dessus.
Qu'est-ce que le racisme? Pourquoi se manifeste-t-il? Tous les hommes sont-ils racistes? Depuis plusieurs années, des chercheurs en génétique et en sciences humaines et sociales tentent de répondre à ces interrogations. Leurs travaux permettent de décrypter ces notions sans tabou et développent des outils pour comprendre ce phénomène. Le racisme est une manière de penser les différences physiques ou culturelles entre individus comme héréditaires, immuables et naturels. Créer des catégories entre les êtres humains et naturels. Mais l'établissement d'un classement entre ces catégories peut se traduire par des sentiments et des actes allant de la discrimination à l'extermination de l'autre, appelé racisme. Donc c'est l'introduction du premier panneau de l'exposition Parcours éducatif et lutte contre le racisme, nous et les autres, des préjugés au racisme, qui est présenté en copartenariat entre les musées de l'homme, les CMA et l'école de l'ADN de Nîmes.
Commencer par jeter un coup d'œil,
ah bah, très bien,
au moins en essayant de lire un peu tous les panneaux de l'expo. Ça va.
Allons.
Commencer comme ça un petit peu.
Voilà, directement dans l'ordre.
Non, mais il y a au moins ça, c'est le début quand même. Après, ça peut se regarder différemment, mais les deux, trois premiers sont quand même juste été pensés pour qu'ils soient présentés.
Ok. Ouais, c'est pas le meilleur.
Je fais un petit reportage sur cette exposition. Est-ce que vous pouvez lire juste les titres quand,
Nous et les autres, des préjugés au racisme.
Vous avez dit racisme.
Dans 100 ans, serons-nous tous métis?
Une identité en mouvement. On crée des étiquettes, on catégorise. On classe ces étiquettes, on hiérarchise. On fige l'individu dans ces étiquettes, on essentialise. Égal racisme.
Des questions. Est-ce que la science a quelque chose à dire sur le racisme?
Que dit la loi? Elle punit les mots et les actes.
S'il existe des races de chiens, pourquoi les hommes ont-ils des couleurs de peau différentes? S'il n'y a pas de race, on vient bien tous d'Afrique?
Plus population sévère. Humaine présente trop peu de diversité génétique entre elles pour justifier la notion de race. Encore moins pour y associer des hiérarchies. C'est l'homme qui a créé les races chez les espèces telles.
Ouais, c'est pas le meilleur.
Alors moi, je suis devant une image absolument incroyable d'une famille qu'on imagine d'origine maghrébine, on ne sait pas où trop, du Maghreb. Et en fait, le titre, c'est « Les beaux-parents et les différences culturelles ». Et on voit la maman qui est au téléphone et qui dit à sa fille « Kenza, tu peux inviter ton Mathieu à dîner, il sera comme chez lui. J'ai cuisiné des surgelés, j'ai mis la télé à fond et ton père s'entraîne à faire la gueule ». Et donc, le titre de ce panneau, c'est « Où en est-on avec le racisme ?». Point d'interrogation.
Alors moi j'étais sur l'exposition du musée de l'homme sur le racisme et ça m'a posé beaucoup de questions parce qu'en fait le musée de l'homme c'est un musée qui a fait son beurre sur le colonialisme et on se retrouve avec une expo dénonçant le racisme et du coup ça m'a posé vachement de questions, en fait c'était un peu l'hosto qui souhaitait de la charité. Mais sinon après les échanges globalement dans le groupe étaient assez intéressants parce qu'on posait justement ce questionnement. Et on trouve aussi des démarches qui n'étaient pas ouf, comme dénoncer, enfin, débunker les arguments de la biologie qui justifient l'esclavage. Et voilà, c'était...
Dans la première décennie du 19e siècle, jusqu'au milieu du 20e, on assiste en France au triomphe de l'esprit colonial. Alain Ruchiot, spécialiste du colonialisme français, évoque ainsi l'existence d'un parti colonial dont l'idéologie pourrait être ainsi résumée, selon lui, par « L'homme blanc détient le savoir, il émet la pensée, il crée la civilisation. » Il s'agissait pour ce groupe de légitimer la politique coloniale, les campagnes militaires, et valoriser la puissance de l'Empire. La chanson, comme véhicule de ces préjugés, contribue à répandre l'imagerie coloniale. En effet, même lorsqu'elle est fredonnée sans autre visée que celle de la distraction, il n'en reste pas moins que les paroles sont transmises et se propagent.
Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, si la France occupe aujourd'hui un rang de première catégorie parmi les nations du monde, c'est qu'elle a su par le passé prendre part à la plus belle des entreprises humaines, la colonisation. Parmi vous ce soir pour vous raconter la fabuleuse histoire des colonies françaises. Cette histoire que vous connaissez peut-être mal, vous pouvez tous en être fiers. Elle nous a permis de manger des citrons et des bananes en toute saison depuis des générations. Si j'ai été convié ici, moi, le général de Gaulle, pour vous conter cette histoire, c'est parce que j'ai une haute opinion de la France, de ses valeurs et de sa mission. Pour moi, l'histoire des colonies françaises n'est pas une connaissance réservée à l'élite. Tout Français a le droit d'apprendre ce qui s'est réellement passé, car ça finira forcément par se savoir un jour. Nos colonies rayonnaient en Afrique et en Asie, dans les Indes et en Extrême-Orient, et même en Amérique. Nous avons tissé des liens profonds avec les indigènes, car nous avons su nous intéresser à leurs coutumes et à leurs ressources naturelles. L'aventure coloniale n'est pas qu'une compilation d'entreprises militaires ou commerciales. C'est une grande œuvre collective que la métropole a planifiée de l'intérieur suivant trois grands principes. Exploration, civilisation et évangélisation. Aujourd'hui, l'empire colonial n'est plus, mais la France est une terre d'accueil pour les immigrés de nos anciennes colonies, pour les immigrés des colonies des autres pays, et même pour les immigrés des pays qui n'ont jamais eu de colonie. Tous nos immigrés, sans exception, qu'ils soient noirs, jaunes ou beiges, ont trouvé du travail et ne font l'objet d'aucune discrimination de la part des vrais Français. Si le monde d'hier n'est pas devenu français, au moins la France du XXIe siècle est-elle devenue mondiale ? Petite histoire des colonies françaises. Grégory Jarry et Otto T.
Il y en a qui pensent sincèrement en France qu'on allait faire la guerre en Libye parce qu'on voulait sauver le peuple libyen. Il y a un côté mignon. Non, il a le droit de le penser, les gars, mais honnêtement, au trivial poursuit, je ne le prends pas dans mon équipe.
La proposition ce soir, c'est qu'il y a un tas de livres avec des titres évocateurs ou non sur cette table. Et donc, c'est de choisir un, deux, trois titres. Et de pouvoir expliquer en quoi ça fait écho ou pas du tout au parcours de réflexion que vous avez vécu aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une personne qui a envie de se lancer ?
Moi c'est Raphaël, j'étais au temps sur le racisme. Devant moi, il y a plusieurs livres. Celui qui me parle le plus en rapport avec ce qu'on a vu, c'était « La mécanique raciste ». Donc c'est le livre La mécanique raciste de Pierre Thévagnan. Parce que en fait aujourd'hui, bon, on l'avait déjà fait hier, on avait redéfini le racisme d'une manière qui nous permette de le penser en tant que structure, en tant que mécanique. Et aujourd'hui du coup on s'est attelé, avec ce prisme analytique là, à avancer un peu là-dedans. Du coup on a vu un peu, il y avait deux parties, on a vu à la fois les origines, enfin les origines, une des origines du racisme liée à la traite des Noirs, et puis on a aussi, enfin il y avait une partie intéressante de déconstruction de, oui à un moment les Européens sont devenus gentils et ont aboli l'esclavage, en fait on a vu que c'était lié à des raisons économiques. Enfin, qu'il y avait des enjeux économiques derrière, et puis il y avait une autre partie où on a réfléchi à qu'est-ce que c'était la blanchité en termes de privilèges, en termes de construction, qu'on avait utilisé plusieurs, on a utilisé plusieurs documents, dont un podcast qui s'appelle Kif Taras. Donc c'était l'épisode qui s'appelle Check tes privilèges blancs. On avait on a écouté les 10 premières minutes, et puis après on a un peu discuté de ça, on a avancé sur le sujet. Donc bah il y a beaucoup de personnes. Donc on a fini par du coup un exercice où on checkait nos privilèges blancs du coup nous-mêmes avec un guide, un petit questionnaire. On a vu à quel point, enfin il y a beaucoup de personnes qui se sont aperçues à ce moment-là à quel point ils avaient été privilégiés dans leur scolarité, dans leurs rapports amicaux, amoureux, dans leur mobilité, dans leur dans plein de choses en fait du coup qu'on pensait pas. Et puis il y a plusieurs personnes qui étaient un peu secouées dans le sens où c'est un peu une prise de conscience qui n'est pas forcément évidente à vivre. Donc, c'était plutôt intéressant. Et du coup, ouais, le livre La mécanique raciste, c'est dans le sens où en checkant nos privilèges, on se rend bien compte qu'il y a une mécanique qui nous avantage. Et du coup, c'est pas je suis gentil, j'ai jamais. Je dis jamais de trucs racistes, donc je suis pas raciste, donc tout va bien. C'est je bénéficie de privilèges issus de la mécanique raciste. Et donc voilà, c'était très intéressant. On verra demain. On a prévu de continuer sur ces privilèges-là parce qu'on était un peu sur nos privilèges, sur un peu une introspection parce que certains étaient frustrés de pas aller plus loin. Quoi. Voilà. Je sais pas si c'est suffisant.
Un autre titre de livre, c'est pas obligé de dire autant de choses. Hein. Ça peut être juste des réflexions, des phrases plus courtes.
Alors du coup, moi j'ai choisi 1000 secrets de Poussin. Dans l'axe genre et sexualité, on a séparé le groupe pour un peu que chacun ait des réponses à ses attentes. Et moi, le temps qui m'a le plus apporté, c'est un temps où on a échangé nos pratiques et on a réagi à des situations complexes sur ces questions. Et où j'ai eu l'impression, du coup, d'être avec plein de super poussins qui avaient plein de super petites billes, petits secrets là-dessus à m'apporter.
Moi, c'est Splash. Au début, il y avait 3 couleurs. Ça me fait penser aussi à ce que disait Lode Raphaël. Je ne suis vraiment pas du tout dans l'originalité ce soir. Par rapport à ce qu'il disait là, sur les privilèges, etc., sur les places de chacun. Pareil, nous, en genre, ce matin, on a fait un petit exercice du pas en avant. On s'est aussi vite rendu compte que, en fait, en fonction de notre couleur de peau, de là où on venait, de la taille, les cheveux, n'importe quoi, en fait, il y a des fois où on se retrouve bloqué dans des situations qui paraissent complètement anodines. Et puis, il y en a qui avancent, on ne sait pas trop pourquoi ni comment. Et ça me fait penser un peu à ça, là, ce fait de, en fait, il y a 3 couleurs, il y a même bien plus que 3 couleurs. Et puis, il y a aussi bien plus que 1000 secrets de poussant de personnes, dans le sens où chaque personne est unique et différente. Il y a des fois où on fait des pas et il y a des fois où on fait plutôt 2 pas à reculons, on ne comprend pas trop pourquoi.
Cabinet du docteur Fanon.
Ouais, bonjour docteur, je vous appelle là pour prendre rendez-vous, là c'est assez urgent.
Bah qu'est-ce qui vous arrive?
Bah j'ai des réactions toutes bizarres là, je crois que j'ai vraiment chopé un sale truc.
Un virus, ça vous chatouille, ça vous gratouille, c'est-à-dire.
Encore pire que la cale, j'ai le virus hexagonal, la fièvre coloniale, sexiste et libéral, allergique aux musulmans, aux SDF et aux tziganes. Eh ouais, camarade, je suis français mais je me soigne. Encore pire que la cale, j'ai le virus hexagonal, la fièvre coloniale, sexiste et libéral, allergique aux musulmans, aux SDF et aux tziganes. Eh ouais, camarade, je suis français mais je me soigne. Élevé au Banania, Tintin au Congo, Astérix et les Gaulois, tête nègre et Pépito, petites vacances. Colonial à Djerba, aux petites blagounettes, racistes de bon papa, toxiqué par TF1, j'ai appris à les haïr, à les craindre, à m'en méfier, ou même à les maudire, ils sont la cause de mes problèmes, parce qu'on m'a dit xénophobie,
Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Dans la cour de récré, c'était les cow-boys et les indiens. Alliés au visage pâle, donc du côté des haïkins. Exterminer les apaches, les sioux et les comanches. Sans pitié, imposer la suprématie blanche et normale. C'est nous qu'on est les meilleurs, les plus beaux, les plus forts. La race est supérieure, les civilisateurs, les démocrates, les visionnaires. Tout ça c'est écrit dans mes manuels scolaires. Mais attention, je suis pas raciste, mon cœur est à gauche. Généreux, humaniste, c'est pas du cinoche. Et j'adore le Maroc, le Sénégal et Barbès. J'ai même adopté de petites négresses. Encore pire que la cale, j'ai le virus hexagonal. La fièvre coloniale, le sexiste et libéral. Allergique aux musulmanes, aux SDF et aux tziganes. Eh ouais camarade, je suis français mais je me soigne. Encore pire que la cale, j'ai le virus hexagonal. La fièvre coloniale, le sexiste et libéral. Allergique aux musulmanes, aux SDF et aux tziganes. Eh ouais camarade, je suis français mais je me soigne. Attention gros, viril mais correct, pas une tarlouse. L'homme idéal est un vrai mec, un French lover, un tombeur, un prince charmant. Je sais, j'ai fait ma formation dans les rayons d'Auchan pour ma sœur. C'était les Barbies, les dinettes. Pour moi, les G.I. Joe, les pagnoles et le survêt. Elle, c'est la boniche, la cuisine et la coiffure. Et moi, le caïd avec mon flingue à la ceinture. Chacun son truc, son domaine de compétence. J'suis pas macho, tout ça c'est prouvé par la science. Nous, c'est la logique, la force et le charisme. Elle, c'est la tendresse, la douceur, le romantisme. Dans la pub, elle serait sexy et maternelle. Et plus douée que nous, c'est sûr pour laver la vaisselle. La nature est bien faite. Et toi chérie, ou ce soir je te fais ta fête. Encore pire que la cale, j'ai le virus hexagonal. La fièvre coloniale, le sexiste et libéral. Allergique aux musulmanes, aux SDF et aux tziganes. Eh ouais camarade, je suis français mais je me soigne. Encore pire que la cale, j'ai le virus hexagonal. La fièvre coloniale, le sexiste et libéral. Allergique aux musulmanes, aux SDF et aux tziganes. Eh ouais camarade, je suis français mais je me soigne.
Voilà, on arrive presque au terme de cette émission, où on a pu, on s'est appuyé en tout cas sur des supports que vous aviez réalisés dans le cadre d'une autre émission de radio. Vous aviez réalisé des émissions de radio éphémères dans le cadre d'un regroupement. Peut-être que tu peux nous en dire un peu plus sur le sens et l'intérêt, qu'est-ce que ça a permis en fait de faire de la radio sur un regroupement comme ça et plutôt dans une logique interne. Que c'était pas forcément une radio pour être diffusée.
Bah ouais, c'était aussi un autre espace d'activité. Enfin, voilà, comme il y a eu des espaces bricolage, des espaces expression, des espaces tout ça, donc un espace d'activité, donc pour se faire plaisir, mais aussi pour s'expérimenter, et puis parce que c'est des choses qu'on fait en stage, qu'on peut faire en colo, qu'on peut faire avec des jeunes et tout. Et c'est aussi un truc un peu là, comme on appelle nous, qu'on voulait avoir une petite visée un peu, comment dire, institutionnelle, c'est-à-dire quelque chose qui permet au groupe d'exister, qui permet de se vivre. Par exemple, on avait la criée, qui était un des moments de l'émission où si quelqu'un avait une information à faire passer, un coup de gueule, quelque chose, bah, il pouvait le dire sur la criée. On avait aussi le pari, là, dans comment ça vient faire fonctionner le groupe, de se dire, au début, ça devait être un regroupement national, c'était un regroupement interrégional, bah, ça pouvait permettre peut-être à des gens qui auraient pu venir aussi d'écouter de loin. Et puis, aussi, dans un autre truc qu'on se discutait avant, c'est que souvent, quand on fait des week-ends comme ça, on essaie d'avoir ce qu'on appelle des traces, quoi, de garder souvenirs et puis de pouvoir se replonger dedans. Et souvent, c'est des écrits. Et là, on a fait le pari de se dire, tiens, bah, peut-être si on enregistre au jour le jour, après, ça peut nous faire une autre forme de trace. Voilà. Et là, c'est, bon, justement, on a plein, quoi, on s'appelait avec un copain aujourd'hui, on disait, bah, tiens, on va se retrouver, on va faire une petite synthèse et ça permettra d'avoir des traces de ce regroupement. Et puis, bah, de fait, ça donne des envies, quoi. On parlait avec certaines de faire une radio sur le congrès. Et puis, ça donne une possible parce que, alors déjà, avec des gens qui sont venus à la radio parler alors qu'ils ne seraient pas attendus à le faire, et du coup, ça leur donne des envies après pour la suite. Et puis, j'ai perdu mon idée. Mais voilà, ça donne des possibles. Ouais. Si, les possibles, c'était, par exemple, on s'est retrouvé à un moment, tout à l'heure, on parlait du chant là, sur le SNU, mais en deux minutes, dans une soirée, on chante, et puis on se dit, tiens, on veut modifier les paroles, on modifie les paroles, et puis on s'enregistre, et ça permet de repartir avec. Mais voilà, ça donne beaucoup de possibilités, quoi, de faire des choses un peu plus dans le temps, quoi. Voilà, un peu tout ça.
Ok. Et ben on espère qu'en tout cas avec cette émission du mois de décembre vers l'éducation nouvelle, on vous a permis un peu de vous immerger dans les dynamiques et d'échanges de pratiques de travail au sein du regroupement national animation et interrégional, et puis que les sujets traités vous ont aussi amené à réfléchir et à Voilà, à réfléchir. On vous donne rendez-vous du coup pour l'émission. Alors en fait, je me suis trompé, on n'est pas l'émission de décembre, on est l'émission du mois de janvier.
Ouais, bonne année.
Ouais, bonne année, tout à fait, j'avais oublié là-dessus. On vous donne du coup rendez-vous pour l'émission du mois de février qui sera réalisée par des jeunes femmes roms et françaises d'un projet qui s'appelle Teen et Sol, où elles parleront de ce projet, mais aussi un peu de leur réalité. De la situation des personnes qui vivent en bidonville aujourd'hui. Voilà. Et ben bonne fin de journée à vous et à bientôt sur JetFM 91.2.
Personne n'éduque personne, personne ne s'éduque seul. Les êtres humains s'éduquent ensemble par l'intermédiaire du monde.
Éduquer, ce n'est pas remplir un vase, c'est allumer un feu.
Vers l'éducation nouvelle.